Chapitre 4. Pharaon. Kay traversa une période terrible. Il avait perdu son métier et se sentait sans cesse tiraillé entre l'envie et la terreur de retrouver un jour la momie. Car il n'arrivait pas à comprendre sa disparition. Il soupçonnait Seth, le gardien du désert, de l'avoir enlevé lors de la tempête qui s'était déchaînée cette nuit-là. Et en même temps, il ne parvenait pas à effacer de son esprit les quatre morts. Le fil de sa vie lui parut soudain mince et fragile. Alors, il décida de fuir le désert pour regagner le domaine du grand fleuve. Mais Kay ne pouvait trouver la paix. Il ne pouvait oublier que depuis cette nuit de terrible tempête, il avait entendu à plusieurs reprises une voix dans sa tête. Une voix qui disait... Non, il ne pouvait pas répéter ce que disait cette voix. Pour ne plus l'entendre, il parlait au chacal. Par mille détours, ils étaient revenus au bord du Nil. Les eaux du grand fleuve, qui avaient envahi ses rives au temps de la crue, venaient de se retirer, laissant derrière elles un limon fertile qu'on devait tout aussitôt ensemencer. Pourtant, sur la vaste étendue qui séchait au soleil, pas un homme. Kay en fut étonné. Il s'arrêta aux premières maisons de boue séchée du village et appela. Personne. Tout était-il donc désert? Soudain, il entendit des lamentations. Se laissant guider par elles, il parvint à un petit temple dédié à la déesse Hippopotame, où des femmes rassemblées y pleuraient. Kay patienta un moment, puis, les plaintes ne semblant pas s'atténuer, il s'inquiéta auprès d'un jeune garçon qui paraissait attendre, comme lui. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à voix basse. « Les femmes prient pour le retour des hommes. La terre est en train de sécher au soleil. Bientôt, elle sera trop dure pour qu'on puisse la travailler. Les femmes supplient la déesse protectrice de leur ramener les hommes. Sinon, il n'y aura pas de récolte cette année. « Où sont-ils partis ?»« Personne ne le sait. Un homme grand est venu. Il s'est arrêté au bord du fleuve. » Et les a regardés. Et puis, il leur a fait signe de le suivre. Alors, les hommes ont laissé là leurs outils et sont partis derrière lui en emportant leurs armes. « Qu'est-ce que cet homme leur a dit ?» s'étonna Kay. « Rien !» s'exclama le garçon avec véhémence. « Il ne leur a rien dit. Il a juste fait signe du regard. » Le garçon eut un geste d'agacement et d'impuissance. Puis, laissant là Kay, pour la centième fois, il escalada un palmier et de là-haut scruta l'horizon. Personne. Les lamentations continuaient. « Il faut que les hommes reviennent !» grogna le garçon, en contemplant la vaste étendue de terre qui durcissait peu à peu. Kay suivit son regard. Ainsi, un homme était venu, et il n'avait rien dit. Qui avait-il à comprendre à cela ?« Avez-vous un troupeau de porcs » s'informa-t-il. Il s'arrêta net, lui qui n'aimait pas se mêler des affaires des autres. « Voilà qu'il... » Enfin, il n'était pas responsable de cette situation. Pourquoi intervenir ? Nous avons des porcs, répondit le garçon un peu surpris. Bon, finalement, Kay avait des raisons d'aider ces gens. Il allait monnayer ses renseignements et remplir son estomac vide. Dans ses voyages au long du fleuve, il avait vu beaucoup de choses. Et voilà que l'une d'entre elles allait lui servir. Alors, reprit-il, vous êtes sauvés. Demandez aux femmes de cesser leurs prières. Le garçon se précipita dans le temple et les gémissements se turent. Les femmes sortirent. Leur visage était empreint de méfiance et d'espoir en même temps. « La déesse Hippopotame va vous exaucer par ma voix, » commença alors Kay. « Mais en échange, elle vous demande de me nourrir pendant 3 jours. » Perplexes, les femmes acquiescèrent lentement de la tête. « Vous allez laisser là votre ouvrage, » reprit le garçon. « Prendre le grain et ensemencer les terres. » Comme les hommes ne sont pas là pour retourner le sol et enfouir à la charrue, vous allez simplement lâcher le troupeau de porcs sur la terre encore meuble. Les bêtes piétineront et enfonceront le grain. La récolte, sans doute, sera moins bonne. Mais l'important est de se maintenir en vie. Un moment de silence, puis des chuchotements. Enfin son idée, cheminant dans les esprits, eut un réel succès, qui vida aussitôt le village de ses femmes pour les éparpiller sur les bords humides du fleuve. « Voilà comment on gagne 3 jours de survie, » souffla-t-il au chacal. Son cœur était plus léger. Il regarda autour de lui et l'endroit lui parut rassurant. Il avait envie de rester. Le 3e jour finissant, Kay fit valoir qu'il pouvait rendre quelques services et les femmes, finalement, acceptèrent qu'il s'occupe de l'élevage de grues cendrées, tandis que le chacal garderait le troupeau de buffles. Quelques jours passèrent. Toujours pas de nouvelles des hommes. Et voilà qu'on entendit des rumeurs étranges. On disait que Pharaon était mort, Puis on disait qu'il n'était pas mort, mais seulement emprisonné. Leur pharaon, emprisonné ? Cette révélation plongea le pays dans l'effroi. Qu'on puisse toucher à la personne du pharaon était un affreux sacrilège. Si le pharaon avait disparu, les dieux déserteraient le pays. Mais un nouveau bruit parvint bientôt. Encore plus étonnant. Un autre pharaon était monté sur le trône. Un pharaon que certains appelaient le vrai pharaon. C'était à n'y rien comprendre. Pourquoi vrai pharaon ? On se posa des questions à voix basse, en chuchotant, pour que les mots ne passent pas les murs. On n'eut jamais de réponse. Mais un jour, tout commença sans qu'on y prenne garde. On apprit seulement que le nouveau pharaon ouvrait des chantiers immenses, recrutant des ouvriers dans tous les villages. Puis on sut qu'il les faisait travailler sans les nourrir ni les payer. Comment était-ce possible ? À ce qu'il semblait, le pharaon faisait bâtir une pyramide. Mais le pire était que tous ceux qui la construisaient devaient mourir, car jamais le secret du labyrinthe intérieur, ni celui de l'emplacement de la chambre mortuaire, ne devrait passer leurs lèvres. Et voilà que les collecteurs d'impôts commencèrent à sillonner le pays, à confisquer les récoltes et les animaux. Tout appartenait au vrai pharaon, disait-ils. Enfin, un jour, les hommes du village revinrent. Ils racontèrent qu'ils étaient allés aider le vrai pharaon à reconquérir son trône, qu'ils devaient se sacrifier pour lui et cultiver leurs terres de leur mieux pour lui obéir, l'enrichir et augmenter sa puissance. Les femmes ne comprenaient pas. Elles refusaient une telle chose. Mais les hommes ne voulaient rien savoir. Ils étaient devenus comme fous, fous de leur nouveau dieu. « Pharaon fut dépouillé par l'homme », répétait-il sans cesse. « C'est donc à l'homme de lui restituer ses biens et sa puissance. » Les femmes s'indignaient. « Qu'est-ce que cela veut dire ? De quel homme parlez-vous ? » Mais les autres ne répondaient pas. De quelle manière ce vrai pharaon avait été dépouillé, ils ne le dirent jamais. Ils ne le savaient sans doute pas. Alors Kay commença à se sentir de plus en plus mal à l'aise. Quelque chose lui étreignait la poitrine sans qu'il saisisse pourquoi. Il craignait de quitter le village, et pourtant il se sentait attiré. Là-bas se construisait une pyramide. De toute façon, maintenant que les hommes étaient rentrés, ils n'avaient plus de travail au village. « Ne crois-tu pas que nous devrions partir ? » demanda-t-il au chacal. Il lui sembla que l'animal se repliait un peu sur lui-même, comme lorsqu'il avait peur, mais sans faire un geste pour protester. Kay décréta alors que c'était dit, et qu'ils retourneraient chez eux. Ils reprirent donc leur chemin, remontant le fleuve vers le nord, se nourrissant de racines, de fruits tombés, et parfois du cadavre d'un animal sauvage qui séchait au soleil. Le temps passant, Kay vit que le monde était en train de se transformer. Il vit les arbres dépouillés de leurs fruits, les récoltes chargées sur d'énormes bateaux s'éloigner vers le lointain palais. Tout était pour le vrai pharaon. Les femmes pleuraient. Elles voulaient qu'on leur laisse de quoi nourrir leurs enfants. Mais les soldats du vrai pharaon restaient de marbre, comme si rien ne pouvait les toucher, comme s'ils n'éprouvaient aucun sentiment. D'ailleurs, ils ne parlaient jamais, et c'est ce qui faisait le plus peur. Et puis on vit les lévriers slougis, en grand nombre, dévaler sur le pays, rabattant gazelles, antilopes et hyènes, que les chasseurs tuaient ensuite de leurs arcs et emportaient. Bientôt, il n'y aurait plus aucun gibier. Kay eut alors le sentiment affreux que ce vrai pharaon cherchait à détruire le pays. Cette pensée se mit à le tourmenter jour et nuit, comme s'il se sentait coupable de quelque chose sans savoir de quoi. Un matin, lorsque Kay se réveilla, il s'aperçut avec effroi que le chacal n'était plus là. Il chercha des yeux tout autour et appela d'une voix étranglée « Chacal, chacal !» À perte de vue, le sable, seulement la vibration de l'air. « Chacal !» La peur lui serra le cœur que l'animal n'ait été abattu. Il chercha partout, à plat. Les yeux lui piquaient, ses pensées s'affolaient. Et soudain, il découvrit qu'il connaissait l'endroit où il se trouvait. Déjà un jour, il s'était arrêté là. C'est dans ce même endroit que pour la première fois le chacal avait disparu. Alors Kay sécha ses larmes, s'assit sur le sol et attendit. Il attendit jusqu'au soir. Et enfin, dans les dernières lueurs du jour, il aperçut le chacal qui revenait, tenant quelque chose dans sa gueule. Un moment, il crut qu'il s'agissait d'un animal qu'il avait réussi à tuer. Puis il reconnut un tout jeune chacal. Il le prit dans ses mains et le serra contre sa poitrine. « Où l'as-tu trouvé ? » demanda-t-il. Le chacal tourna tristement la tête vers le désert. Kay eut l'impression qu'il avait envie de pleurer. Mais un chacal ne verse pas de larmes, c'est impossible. Un bruit lui fit lever la tête. le chacal sursauta avant de s'aplatir sur le sol. Une longue file de chasseurs venait de leur côté. Rentrant d'une expédition, ils portaient toutes sortes de grands animaux déchirés, la tête pendante. Un long moment, le chacal ne fit pas un mouvement, se confondant avec le sable. Enfin, quand le dernier chasseur fut passé, il se redressa avec lenteur. Il ne regarda pas de leur côté. Tenant la tête baissée, il se mit à gémir doucement. Kay remarqua alors que le dernier des chasseurs portait, accroché dans son dos, une peau jaune, dont il comprit aussitôt l'origine. C'était la peau de la femelle, celle que le chacal était allé voir une nuit. Et il comprit aussi que ce jeune qu'il avait ramené était son propre fils. Il caressa le petit sans rien dire, la gorge nouée. La faim commençait à tourmenter les hommes, mais, au grand étonnement de Kay, sans les faire ni crier ni se plaindre. Ils semblaient même heureux de sacrifier leur vie à la grandeur du prince. Pourtant, dans les villages, on n'entendait plus un rire. Kay regardait tout cela sans comprendre, et son cœur saignait. Depuis longtemps, une question le rongeait, une question qu'il n'avait jamais osé poser. Enfin, il s'arrêta dans un village, pour parler aux hommes qui tous avaient un jour suivi l'inconnu, et demanda à quoi ressemblait ce nouveau pharaon, qui était, disait-il, le vrai pharaon. On lui répondit que l'homme était grand et mince, que d'un seul regard il pouvait vous faire ramper, que sans dire un mot il était obéi, que c'était un dieu sur terre, le plus grand dieu. « Et son nom ?» demanda Kay avec crainte. « Son nom ? Nul ne l'a bien compris. Le mystère doit demeurer car Pharaon est au-delà des hommes. » « Mais encore, » insista Kay, « ne savez-vous pas à quoi ressemble ce nom ?»« Nous avons entendu Pharaon le prononcer. Nous n'en avons compris que le début. » Son nom, à notre avis, commence par « tout ». Nous ne voulons pas savoir la fin, nous n'avons pas à le savoir. Kay sentit son sang se glacer. Il s'éloigna sans un mot. Cette phrase dans sa tête, il avait cru l'entendre pendant cette terrible tempête. Il l'entendait depuis, chaque nuit, mais il se bouchait les oreilles. Il ne voulait pas la croire. Et pourtant, cette phrase avait raison. Elle disait « Tu as dit mon nom, tu m'as donné la vie ». Il avait fait cela, lui, Kay. Il avait prononcé le nom de Pharaon. Elle avait ainsi arraché à l'éternité. Kay s'arrêta, contempla avec désespoir le dieu soleil qui illuminait de sa lumière cette terre de misère, puis se laissa tomber le visage contre le sable et pleura.